Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
18h06 sur RMC, l'Intégral Sport qui se poursuit jusqu'à 19h, heure à laquelle vous retrouverez évidemment tout le service politique d'RMC, de BFM pour une émission spéciale législative. En attendant, le sport continue évidemment. Nous serons dans un instant à Budapest pour les championnats du monde de natation avec des finales et des Français et des Françaises engagées. Autre finale, la finale de la Ligue des champions de hand qui a débuté il y a quelques minutes, Morgane Mori, avec cette affiche traditionnelle entre Barcelone et Kielce.
Alors, elle est, on l'a pas souvent en finale de Ligue des Champions.
On les a souvent, ces deux-là, par là.
C'est une finale de Ligue des Champions. Le Barça quête sa 10e victoire. A déjà 10 victoires. Quête sa 11e victoire en Ligue des Champions. C'est le tenant du titre. 7e finale déjà dans cette Lanxess Arena de Cologne. Et après 5 minutes, c'est le Barça qui fait la course en tête dans cette partie. But à l'instant d'Angel Fernandez. 4 pour le Barça, où on trouve 4 Français, Ludovic Fabregas, Dika Mbembe, Melvin Richardson et Timothée Nguessan. 2 pour le club de Kielce. Il y a 2 tricolores, Dylan Nahi et Nicolas Tourna. 4-2 pour le Barça après 5 minutes dans cette finale de Ligue des Champions.
Merci Morgane. Évidemment, tu nous tiens au courant de l'évolution du score. On va parler de vélo aussi dans quelques minutes. Il est déjà là, en place. On va lui ouvrir son micro parce que vous savez, il ne sait pas faire. Cyril Guimard, en ma compagnie. Bonsoir Monsieur le Druide, comment allez-vous? Vous êtes beau, vous êtes de plus en plus jeune, j'ai l'impression.
Eh bien, c'est vraiment le sentiment que j'ai, oui. Je suis de plus en plus jeune et tout le monde me le dit, alors je vais être obligé de le croire.
On va voir si vous êtes aussi performant.
Il y a quelques hypocrites quand même sur la terre.
Il y a un paquet de faux culs, oui, ça c'est sûr. Cyril, avec lequel on va parler de vélo, évidemment. Le Tour de Suisse vient de s'achever. Dans 15 jours, départ du Tour de France. Les championnats de France, c'est la semaine prochaine. Il y a plein de sujets à évoquer avec Cyril. En attendant, on va faire un tour à Budapest. Julien Richard, lui, sera avec nous à Copenhague au départ du Tour dans 15 jours. En attendant, il est au bord de la piscine à Budapest avec des finales qui vont concerner des Françaises, notamment une Française. Il a plongé, ça y est, Julien est là.
Ouais, moi ça fait plus de bruit et d'éclaboussure
quand je plonge.
Ouais, c'est ça. Oui, une Française tout de suite maintenant, enfin dans quelques minutes, dans 2-3 minutes, une Française pour pourquoi pas la deuxième médaille dans ces championnats du monde pour la délégation française après l'or, le titre sur 400 mètres 4 nages de Léon Marchand. C'est Marie Wattel qui est en finale du 100 mètres papillon. Marie Wattel qui a réalisé tout simplement la deuxième meilleure performance des demi-finales, deuxième temps, deuxième chrono, et c'était on va pas dire une surprise, mais presque pour elle, parce que c'est vrai que Marie Wattel, qui a terminé sixième des Jeux à Tokyo, a changé pas mal de choses depuis les Jeux. Elle a quitté Loughborough en Angleterre où elle s'entraînait. Elle a rejoint Marseille et elle s'entraîne désormais avec Julien Jacquier. Ils ont ajusté des choses sur la technique notamment. Elle nous a expliqué aussi qu'elle avait, en termes d'hygiène de vie, après les Jeux, relâché un peu et qu'elle l'avait certainement
payé. Elle avait bu quelques apéros, j'ai lu.
Exactement.
Bon, il y en a d'autres. Hein.
Tiens, avant qu'elle n'arrive sur le bord du bassin, on a le temps peut-être justement de l'écouter. Marie Wattel, il y a eu des difficultés au championnat de France en mars à Limoges et ils ont un peu rectifié le tir. Et il y a eu une petite remise en question pour la nageuse, pour la Marseillaise désormais.
Ouais, je pense qu'il y a eu une remise en question déjà de tout à côté de la natation, c'est-à-dire peut-être de mon hygiène de vie, de mes sorties, etc. J'ai voulu peut-être un petit peu plus me recadrer, on va dire, et c'est normal. Et puis après aussi au niveau des entraînements, avec Julien aussi, on s'est remis en question, qu'est-ce que j'avais peut-être un petit peu plus besoin, parce que c'est vrai que les entraînements ont quand même pas mal changé par rapport à l'année dernière. Voilà, on a beaucoup plus travaillé sur le retour du 100 mètres, donc un peu plus un travail d'endurance pour pouvoir tenir sur les derniers mètres, donc on verra bien ce que ça donne.
Eh ben, c'était plutôt pas mal ce que l'on a vu en tout cas en demi-finale pour Marie Wattel. 56 secondes 80 centièmes, deuxième temps derrière une Américaine qui sera très très compliquée à aller chercher. Elle s'appelle Tori Husk, 5 médailles au championnat du monde junior ici même en 2019 à Budapest. Elle a 19 ans, elle détient le record des États-Unis. C'est les teenagers en force dans cette finale pour les États-Unis, puisque l'autre Américaine c'est Claire Curzan, 17 ans, et puis on aura d'ailleurs une nageuse de Bosnie-Herzégovine, l'Indo numéro qui elle a 16 ans, Lana Poudar, championne d'Europe junior de la distance. Alors pourquoi c'est une finale ouverte, Christophe? Parce que donc Marie, elle a terminé 6e des Jeux Olympiques et il manque deux nageuses qui étaient sur le podium justement des JO, et pas des moindres, donc Maggie McNeil, la Canadienne qui est championne olympique, et l'Australienne Emma McKeon qui avait pris la 3e place. La vice-championne olympique, c'est une Chinoise, c'est Yufei Zhang. Elle s'est qualifiée pour la finale, mais alors est-ce qu'elle en a gardé sous le coude, on va voir ça, mais elle semblait pas hors de forme, mais pas à son meilleur niveau en tout cas, la chinoise. Donc il y a peut-être un coup à jouer. L'Indo numéro 5 donc pour Marie Wattel, l'Indo numéro 4 pour Tori Usk, la favorite de cette finale donc américaine, l'Indo numéro 3 pour Claire Curzan, l'autre américaine. On retrouvera également à la l'Indo numéro 2, elle vient de faire son apparition sur les bords de la pelouse, Louise de la pelouse, de la piscine, Louise Hanson, qui a terminé 5e. Exactement, même si on est dans une piscine couverte, tu vois, donc c'est pas ce qui s'est passé. Cinquième à Tokyo, Louise Hanson, et qui était une camarade d'entraînement de Marie Wattel à Loughborough, charmant port de pêche au plein centre de l'Angleterre. Elle a quitté Loughborough, hein, on le répète, Marie Wattel, pour retrouver un peu de soleil. Et on la voit avec cette animation là au moment où les nageurs entrent et elle montre les biscottos, Marie Wattel sur l'écran, et elle entre avec le sourire et la détermination qu'on lui connaît désormais, Marie Wattel, derrière le plot numéro 5 donc de cette piscine de Budapest où elle a décroché, elle en a des bons souvenirs ici, le titre européen. C'était il y a un an avant les Jeux Olympiques, championne d'Europe ex aequo avec Anna Tuntunaki qui n'est pas en finale, la grecque, donc championne d'Europe Marie Wattel, et bah, qui n'a franchement rien à perdre parce qu'elle le disait en arrivant ici, son objectif principal finalement c'était plus, elle avait plus ciblé les championnats d'Europe qui auront lieu au mois d'août à Rome. Ça arrivait un peu tôt ces championnats du monde pour Marie Wattel, donc bah, c'est tout bonus, elle s'est fait plaisir, elle s'est presque surprise à réaliser le deuxième temps des demi-finales, et toujours cette détermination, ce petit hochement de tête comme pour se convaincre, Marie Wattel qui a passé un cap, hein, vraiment, avec cette sixième place des Jeux Olympiques à Tokyo, et surtout cette performance, une performance qu'elle ne se pensait pas capable de réaliser. C'est ce qu'elle nous explique, ça a débloqué pas mal de choses. On sait que mentalement ça a parfois été compliqué de gérer les émotions pour Marie Wattel. Le départ de cette finale avec le très très gros départ de Tori Usk qui est vraiment très impressionnant, 19 ans, l'américaine qui a manqué le podium à Tokyo pour un centième et qui a un boulevard peut-être là vers le titre mondial, un premier titre mondial pour la record woman des États-Unis. Départ, on va dire, un peu prudent de Marie Wattel. Pour l'instant elle navigue en 4 ou 5e position. Passage aux 50 mètres, elle est 7e même, 26 secondes, 92 centièmes, c'est très lent, hein. C'est un passage très très lent pour Marie Wattel qui a certainement choisi cette stratégie pour tout donner sur le retour. On l'entendait nous en parler tout à l'heure et elle s'active maintenant alors qu'il reste 25 mètres. Elle revient à hauteur pour une médaille, hein. Elle est pas mal, Marie Wattel. Elle revient même sur Tori Usk qui craque un petit peu mais qui est toujours devant. Elle est en 2 ou 3e position. Marie Wattel en 2e position. Marie Wattel pour l'instant sur le podium à 10 mètres de l'arrivée. Allez, faut pas craquer dans les derniers mètres. Faut pas craquer. Marie Wattel, 3e, 2e, vice-championne du monde. Marie Wattel sur le podium des championnats du monde. Une première médaille mondiale pour la Française que l'on voit taper dans l'eau avec le bras, saluer l'américaine Tori Usk qui s'impose donc devant Marie Wattel. La sensation, 56 secondes et 14 centièmes, elle améliore de 2 centièmes son propre record de France. C'est la performance parfaite et ça, on va pas dire que c'est inattendu, mais presque, même elle certainement ne s'y attendait pas. Et bien la voilà, vice-championne du monde du 100 mètres papillon.
Magnifique, ces championnats du monde qui sont très bien lancés par l'équipe de France, Julien. Médaille d'or hier, médaille d'argent aujourd'hui pour Marie Wattel. Tu espérais qu'elle soit sur le podium, mais la deuxième place, c'est presque inespéré, non?
Ben, en fait, c'était hyper ouvert. Derrière Tori Usk, l'américaine qui s'est imposée, franchement, voilà, on savait que Zhang Yufei, la chinoise vice-championne olympique, était un peu en dedans. Et d'ailleurs, elle termine troisième, tu vois, de cette finale. Mais vraiment, elle a réalisé surtout la performance, c'est-à-dire son meilleur chrono, son record de France dans une finale mondiale. Donc ouais, là encore, c'est un cap de franchi. Certes, ça n'a pas nagé hyper vite.
Ouais, c'est-à-dire qu'aux Jeux Olympiques. Elle est partie lentement aux 50 mètres, elle était très en retard en plus, hein.
Et c'est ce qu'elle nous disait dans l'interview que l'on a diffusé juste avant cette finale, c'est-à-dire que elle travaille sur ce retour, elle s'est mise à travailler et surtout à se canaliser pour pas partir trop vite et surtout lâcher trop de force dans le premier 50, ce qui était peut-être un peu son péché. Elle aime bien avoir des coups de folie, c'est ce qu'elle nous dit, mettre un peu de folie dans les finales et dans sa nage, et il a fallu peut-être qu'elle se contienne un peu, et c'est ce qu'elle a fait, ne pas paniquer. C'est là où c'est fort aussi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas paniqué, elle vire 7e aux 50 mètres, mais derrière elle produit son effort. fort, libérée aussi. Je pense que ça a joué. Elle est arrivée ici, je te le disais, sans vraiment d'ambition, parce qu'elle visait plus ses championnats d'Europe. Elle disait qu'elle n'était pas forcément prête. Elle a fait une préparation un peu express pour ses championnats du monde. Donc, libérée peut-être d'une pression. Elle a joué sa carte à fond. Et franchement, bravo, parce que c'est un super coup qu'elle a réalisé ici ce soir avec cette médaille d'argent qui va faire énormément de bien. Juste pour tempérer, c'est vrai que on est loin des chronos qui ont été réalisés en finale olympique. Hein. C'est une année post-olympique, il se passe beaucoup de choses, mais ça on s'en fiche parce qu'on va retenir que sur les tablettes, elle a une médaille d'argent mondiale. Et ça, je peux te dire qu'à 2 ans des Jeux Olympiques, c'est quand même un sacré booster et c'est une sacrée bonne nouvelle encore sur ce deuxième jour de compétition pour la natation française. Il y a une dynamique quand même qui est très très intéressante.
Exactement, et la dynamique, on espère qu'elle va se poursuivre dans quelques minutes avec une autre finale et deux Français engagés, c'est ça Julien hein? Non, c'est une demi-finale là.
Oui, c'est une demi-finale. Pardon. C'est une demi-finale. La finale, on espère qu'ils seront tous les deux aussi. c'est Johan Ndoye-Brouard et Mewen Thomas qui seront côte à côte dans la première demi-finale du 100 mètres d'eau qui est maintenant. Hein. C'est la prochaine course d'ici 2-3 minutes. Ils ont réalisé les 4e et 8e temps des séries. Donc là aussi, hein, ils ont des choses à se faire. Allez, pas pardonner, mais à faire oublier de leur prestation à Tokyo. On les attendait. Ils sont jeunes, hein, 20 ans, 21 ans. Et ils sont un peu passés à côté au jeu pour différentes raisons. Et là, ils ont envie de montrer un peu leur plein potentiel. On espère qu'ils vont réussir à s'exprimer.
Très bien. On revient vers toi dans un instant pour cette demi-finale. Donc, sachez-le. Donc, Marie Vatel, médaille d'argent du 100 mètres papillon dans ces championnats du monde. Un petit mot sur la finale de la Ligue des champions de hand. Barcelone, Kielce, Morgan Mori.
Première période, c'est la fin du premier quart d'heure. Il y a eu deux partout. Et ensuite, le Barça s'est envolé. C'est le début de la partie, rien n'est joué. Les coéquipiers de Timothée Nguessand et Dika Mem mettent 8-6 face aux Polonais de Kielce, où on trouve Nicolas Tourna et Dylan Nahi.
Très bien, 18h18, on revient dans un instant pour la demi-finale des Français en natation et puis pour parler de vélo avec Cyril Guimard. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessier.
18h21, la bonne nouvelle de l'après-midi avec donc une médaille d'argent au championnat du monde de natation après la médaille d'or de Léon Marchand hier. Marie Wattel a décroché l'argent donc sur la finale du 100 mètres papillon dame. Et puis dans un instant, les demi-finales du 100 mètres d'eau. Deux Français engagés, Tomac et Ndoye-Brouard. Julien Richard va nous appeler dans un instant. Un tout petit mot sur le hand avec toi. Ah, Marie Wattel tout de suite avec Julien.
Plus de doute, en début d'année, même il y a 2 mois, je faisais même pas le temps pour me qualifier au championnat du monde. On a dû prendre mon temps pour les Jeux et là je bats mon record de France. Donc je m'attendais pas à être à ce niveau-là et je trouve que je le mérite, mais je suis super heureuse.
Qu'est-ce que tu as ressenti tout simplement?
J'ai touché le mur, j'ai vu que la fille à la 4, Torrijos, qu'elle était première, j'ai vu sa petite lumière et j'ai checké ma lumière à moi et... Voilà, j'ai vu que j'étais deuxième, c'était beaucoup d'émotions, je crois que j'ai déjà pleuré dans l'eau, donc comme je dis, ça fait longtemps que j'y crois à une médaille et ça s'est jamais concrétisé, et là ça se concrétise, donc je suis super heureuse.
Vice-championne du monde, ça représente quoi?
Bah beaucoup d'émotions et... je peux y arriver.
On va te laisser reprendre un petit peu tes esprits,
non, comme j'ai dit, j'ai fait ma première équipe, j'avais 16 ans, tout juste 16 ans, et là je fais ma première médaille à 25 ans en individuel. Donc il y a eu du chemin, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'échecs, beaucoup de moments très durs, et ça fait du bien que ça paye, voilà. Et je suis contente parce qu'il y a mes parents qui sont dans les gradins, donc voilà.
Tu me disais en plus il y a quelques jours qu'en plus tu visais plus les championnats d'Europe que ces championnats du monde.
Ouais, franchement, j'y croyais pas du tout, vraiment. Et quand j'ai vu ma demi, je me suis dit, bon, j'ai pas beaucoup de marge, quoi. Donc, j'essayais de pas trop m'emballer et pas me dire que je jouais la médaille parce que je savais que j'avais pas beaucoup de marge. Au final, je crois que les 15 derniers mètres, j'ai tout mis. Là. J'ai mis toute ma rage de ces dernières années et ça paye. Donc, je sais pas, peut-être 55 cet été, j'espère, on verra bien.
Il y a eu un déclic avec la finale des Jeux, tu nous parlais de ce déclic-là, que ça avait débloqué des choses. Là, il y a un podium mondial, c'est encore des choses qui se débloquent.
Ouais, bah carrément, bah c'est, y a que 2 centièmes d'écart entre mon temps des demi aux Jeux et ici, mais c'est une course qui est complètement différente, que j'aborde complètement différemment. Et comme je dis, voilà, je pense qu'il faut que ce contrat avec Julien, c'est vraiment cette patience et pouvoir dégainer vraiment toute mon énergie sur les 20 derniers mètres. Et voilà, ça fait seulement quelques semaines qu'on travaille sur ça et se dire que ça paye déjà, je suis vraiment excitée pour la suite et confiante, on verra bien.
Quand t'es derrière le plot, tu penses à quoi?
Ben, je pense à vraiment utiliser cette vitesse facile le premier 50, à pas m'emballer, utiliser les fils pour vraiment me utiliser leur vitesse, mais en même temps me jauger sans trop en mettre. Et je me dis franchement, Marie, oublie pas, c'est les 20 derniers mètres qui comptent. Et puis je crois que je me suis répété, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut faire. Et voilà, je sais ce qu'il fallait faire.
Voilà, Marie Wattel, médaille d'argent il y a quelques instants. Julien Richard, c'est pas gentil de faire pleurer les filles comme ça. Regarde, hein, Julien, il est terrible. Il pose des questions qui font pleurer les championnes. Voilà, superbe moment d'émotion en tout cas avec cette médaille d'argent. 18h24, Cyril Guimard. Et donc là, lui, je suis pas prêt de le faire pleurer. Encore que si, une fois, je l'avais fait pleurer à l'antenne.
Non. Mais pleurer, on étouffe l'affaire.
C'était là, voilà, quand Julien
Alaphilippe
est battu au championnat du monde, il était tout tristolé, mon Cyril. Comment ça va, Michel Drouet? Vous êtes en pleine forme?
Comme tu l'as dit tout à l'heure, je rajeunis, donc je suis en pleine forme.
Alors, j'espère que tu es en pleine forme, parce que je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, le Covid est en train de flamber à nouveau dans le peloton. On a vu ce qui s'est passé cette semaine sur le Tour de Suisse, avec une véritable hécatombe, plus de 29 coureurs, je crois, qui ont été contraint à l'abandon en plein milieu du Tour de Suisse. Encore aujourd'hui, Peter Sagan non partant parce qu'il est victime du virus. Tout ça est très inquiétant parce qu'on se rapproche du Tour et que les règles en matière de Covid sont strictes dans le cyclisme, Cyril.
Oui, alors c'est surtout les règles qui sont strictes et qui ne sont sans doute plus adaptées à la situation d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'épidémie que nous avions connue il y a 2 ans. Il y a eu hécatombe, non pas de cas positifs, mais à partir du moment où vous aviez un cas positif, vous avez des équipes complètes qui se sont retirées. Et parmi les cas positifs, très peu étaient symptomatiques.
Ouais.
La plupart, comme Peter Sagan, d'ailleurs il a même refait un tweet où il se marrait en disant vous inquiétez pas, il se passe rien chez moi, tout va bien. Mais d'ailleurs l'équipe Total Energy ne s'est pas retirée d'ailleurs. Et je pense qu'il faut réadapter les règles à la situation du virus qu'on a actuellement sur le marché, on va dire.
Mais pour le moment, on sent quand même qu'il y a pas mal de tensions. Marc Madiot était notre invité dans les grandes gueules du sport ce matin. Je te propose de l'écouter. Il est un peu tendu quand même, Marc.
Il y a de l'inquiétude chez moi comme chez mes confrères. Il y a une nouvelle flambée Covid sur la dernière version. On l'a pratiquement tous déjà eu. Il est bénin. Il n'y a pas de grosses conséquences pour la santé des uns et des autres. Mais il n'empêche qu'on est mis sur la touche et on se met sur la touche. On va avoir un problème à régler cette semaine entre les coureurs qui vont sortir du Tour de Suisse, même s'ils sont négatifs, ils peuvent très bien se déclarer positifs dans 3 ou 4 jours, vous savez, comme moi. Et par voie de conséquence, si j'emmène tout le monde au championnat de France, mais que j'ai un petit cluster qui se déclenche chez moi, comment je fais pour aller au départ du Tour?
Eh oui, effectivement, parce que c'est dans 15 jours. Il y a les championnats de France qui auront lieu ce week-end à Cholet. Donc on va séparer les groupes, quoi, en gros.
À partir de jeudi, puisqu'il y a d'abord l'épreuve contre la montre individuelle, et puis ensuite les épreuves en ligne, également pour les femmes. Alors c'est vrai que l'inquiétude de Marc, oui, elle est légitime compte tenu de la réglementation aujourd'hui, alors qu'on n'a pas affaire à la même maladie. Je comprends qu'on soit très tendu, et d'ailleurs je pense qu'une partie des équipes qui ont quitté le tour de Suisse l'ont fait en fonction du Tour de France.
Bien sûr, parce que c'est l'épreuve les plus importantes.
Et qui se sont dit, on va pas prendre le risque, on rentre tout le monde à la maison, dans son petit foyer, avec sa petite famille. Ouais. Point.
Ça veut dire qu'au départ des championnats de France, donc dimanche prochain, il pourrait n'y avoir aucun futur
coureur du tour.
Ouais.
Oui, mais alors ça veut dire que, y compris les équipiers sélectionnés, pas que les leaders.
Ouais, bien sûr, tout le monde.
C'est-à-dire que si on va au bout du raisonnement, est-ce qu'il va y avoir un championnat de France?
Bon. J'espère quand même, parce que le maillot tricolore, ça,
ah oui,
je pense
moi aussi.
Que, voilà. Il y a notamment Arnaud Desmarc qui sera le grandissime favori, qui lui ne participera pas au tour. Mmh. Mais bon.
Bah lui, on peut l'envoyer, il n'y a pas de problème.
Lui, on peut l'envoyer. S'il y a le Covid, tant pis pour lui, mais a priori, ça devrait aller, hein. Ils sont en pleine forme, nos champions. Cyril, un mot du Tour de Suisse qui s'est terminé tout à l'heure, donc, un peu amputé d'un certain nombre de coureurs, avec la victoire d'un revenant, un ancien vainqueur du Tour.
Le renouveau, renaissance.
Geraint Thomas. Mmh. Ah, alors on sait que c'est un redoutable rouleur, ça s'est terminé par un contre-la-montre, c'est pas lui qui a gagné, c'est Remco Evenepoel.
Oui, il y a un petit jeune qui arrive aussi, ouais. Parce que lui il a 36 ans quand même, donc ouais. Il y a un petit jeune qui lui a dit attends, je te garde à une portée d'arquebus derrière.
Alors il sera pas sur le tour en revanche Remco,
non.
Et puis on l'a vu quand même encore une fois en difficulté en haute montagne cette semaine. Il lui manque encore un petit quelque chose pour espérer viser une victoire dans un grand tour dans quoi, dans les 2-3 ans qui viennent.
Non, il lui manque rien. Il est victime de son ou de ses succès parce qu'il a gagné beaucoup de courses depuis qu'il a attaqué le vélo d'ailleurs en arrêtant le foot. Et puis on dit il a pas gagné de course World Tour.
On attend tellement de lui.
C'est-à-dire voilà. On lui met une telle pression, c'est-à-dire qu'on voudrait qu'il soit à la limite plus fort que Merckx. C'est déjà pas évident d'être aussi fort que Merckx, mais voire plus fort. Donc à partir du moment où il commence à avoir des résultats, où il est un peu moins constant, mais on oublie qu'il a été arrêté 6 mois après un grave accident, donc il lui faut un certain temps pour retrouver sa régularité. Là, sur le Tour de Suisse, il l'a dit lui-même, il a pris un coup de chaud, il était 2-3 jours où ça allait pas très bien. Et puis même hier, je pense qu'il aurait pu suivre sur, mais comme il avait plus la possibilité d'aller gagner, il a décroché. Voilà. Et là aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Geraint Thomas à 3 secondes, à 11 secondes, Kung. Une déception pour Marc Madiot aussi, enfin pour le coureur et pour l'équipe.
Le routier, enfin le rouleur suisse.
Oui. Hein, qui... quel beau coureur d'ailleurs. Hein.
Evenepoel, on rappelle qu'il a quand même gagné Liège-Bastogne-Liège, c'est pas même pas
oui,
mal, c'est un démoniment.
Hein. Ça compte plus, On dit c'est une course d'un jour.
On arrive au tour là, Cyril.
On dit c'est une course d'un jour, on parle des grands tours. Vous inquiétez pas, à cet âge-là, avec le talent qu'il a, s'il gagne pas les grands tours...
Ouais, je sais. Bah, tu l'annonces déjà depuis des années, donc j'espère que tu vas pas te planter. On verra ça dans les années à venir. Cyril, Geraint Thomas, cette victoire en fait un des outsiders pour le Tour de France, ou alors il est très loin des petits jeunes, les Pogacar, les Vingegaard, ou encore les un peu moins jeunes comme Roglic.
Ah, je pense que c'est difficile. Outsider, oui, parce que c'est un coureur de talent. Mais rappelez-vous, il a gagné le Tour en 2018. Depuis 2018, il a 2 résultats. Probant, fait deuxième d'un Tour de France où il est battu par son équipier Egan Bernal. Et puis derrière, il y a rien à part un Tour de Romandie l'an dernier. Mais si vous regardez l'ensemble de son palmarès depuis 2018, c'est les deux seuls classements qu'il fait à un niveau World Tour. Donc à 36 ans. Ouais. Je le vois mal. Et puis, attendez, il y a Vlasov aussi qui a abandonné sur le Covid. Mais de l'autre côté, vous avez Pogacar là, qui se promène sur le tour.
Il joue à Chifoumi avec son équipier Maïka.
Promène son vélo là-bas sur le Tour de Slovénie, comme il l'a promené d'ailleurs depuis le début de la saison. Et puis, vous avez les frelons hollandais avec,
Jumbo,
avec Roglic et Vingegaard. Wout van Aert qu'on peut également ajouter. Dans l'équipe Ineos, aujourd'hui, c'est qui le leader, quoi? Est-ce que c'est Daniel Martinez? Est-ce que c'est Geraint Thomas? Est-ce que c'est Yates? Yates est quand même très irrégulier sur les grands tours, il explose souvent en plein vol, au bout de 15 jours. L'équipe Ineos est quand même en perte de vitesse sur les grands tours.
On a beaucoup de questions, évidemment, sur cette formation Ineos. D'ailleurs, on en parlera demain dans Grand Plateau, notre podcast, évidemment, avec toi, avec Jérôme Coppel, qui sera avec nous demain et qui sera avec nous sur le Tour de France. Justement, on essaiera de faire le tour d'horizon de tous les grands favoris de ce Tour de France, avec, évidemment, un grandissime favori, le double vainqueur, Pogacar, qui se promène et qui promène son vélo, comme tu l'as dit, et qui a remporté le Tour de Slovénie. Un mot des Français. Avec évidemment Thibaut Pinot, Cyril. Thibaut Pinot qui nous a donné de l'émotion hier sur le Tour de Suisse en remportant une étape de montagne. Il le disait la semaine dernière, je vais au Tour de France, je ne viserai pas le général, je veux des victoires d'étape. Il montre en tous les cas qu'il a retrouvé une grande forme.
Un bon niveau. Un bon niveau parce que...
Pas celui de 2019 évidemment. Hein, mais...
Évidemment. Il a été en difficulté d'ailleurs sur les premières étapes, mais... je pense à part une où il saute à la pédale, le reste il a plutôt décroché pour prendre suffisamment de retard pour pouvoir le dernier jour sauter dans l'échappée. Ouais.
C'est ce qui pourrait se passer sur le Tour de France. Tu Alors, vois un scénario ouais. un peu identique.
Ben, le scénario, oui, sauf que ce scénario, il est connu maintenant, donc ouais. ce sera un peu difficile.
Il y aura une adversité un peu plus importante.
On n'a pas le même peloton. Ouais. Hein. Pas le même peloton. Donc, oui, il gagne une belle étape. Il la gagne avec intelligence. Il fait une très belle montée. Il gère bien, en fonction des conditions atmosphériques, avec la chaleur. Même encore aujourd'hui, on était à plus de 35 sur le contre-la-montre. Mais les autres jours, on était à 36, 37, 38. Bon, il aime pas beaucoup la chaleur. Mais il a fait une gestion de la course intelligente. Il a été économique quand il fallait l'être. Et puis, il a mis la pression. Sur le tour, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, il marche pas suffisamment pour aller faire le classement général. Ça, c'est évident. Et puis dans son équipe, il y a aussi David Godu, qui lui aussi a de l'ambition.
Qui devrait être le leader de l'équipe, a priori, même si Marc a pas voulu nous le dire tout à l'heure, il attendait.
Non, mais Marc ne vous dira rien maintenant.
Il nous dira rien, mais c'est toi qui peux nous le dire, évidemment, parce que je pense que Marc Madiot dans les mots.
Je pense que ces deux coureurs. Sont un petit peu dans l'inquiétude, sont un petit peu dans le flou et qui savent pas exactement très bien où se situer. Rappelons que David Godu qui avait gagné une belle étape au sprint d'ailleurs devant Wout van Aert sur le Critérium du Dauphiné a explosé sur le final dans la montagne pour aller prendre je crois une place de 15e. Bon, ça peut pas rassurer à 3 semaines du Tour de France. Alors avec quel mental, avec quels objectifs vont-ils partir tous les deux? Je pense qu'aujourd'hui, on peut les mettre pratiquement au même niveau de performance. Et après, on fait quoi?
Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que Godu jouera le général. Il essaiera de faire un top 10. Et que Thibaut essaiera de remporter les étapes.
Ouais, moi, je préférerais qu'on parle de podium ou de victoire. Mais
mais oui, mon bon monsieur, mais tu sais bien.
Mais viser le top 10.
C'est bien, mais voilà.
Puis on a Romain Bardet qui va arriver, voilà. Qui n'était pas prévu.
Romain Bardet. Moi, je pense que c'est aujourd'hui, c'est le Français qui peut viser la meilleure place générale. Mais savoir
sur
quelle
ce
place,
qu'on a vu
sur le Giro.
Ah, sur le Giro, il était impérial. Ouais. Hein, et personnellement, je pense qu'il va aller chercher la gagne au Giro. Ouais.
On verra. Romain Bardet qui dit qu'il jouera pas le général. Mais enfin, lui, je
me méfie. Les Français, ils jouent jamais rien. Top 10. Hein. Ce serait quand même bien qu'à un moment.
Oui, mais je sais. Mais après, on est tellement déçus quand ils disent je vais gagner le tour. Bah oui, mais enfin, quand tu dis ça, il faut aussi assurer derrière. Un tout petit mot de Julien. Est-ce que tu as des nouvelles de Julien?
Non, je n'ai pas de nouvelles. Tout du moins, pas plus que vous. Et vous, peut-être que moi.
On ne sait pas.
On sait qu'il sera au départ du championnat de France.
Oui, ça c'est sûr.
Dimanche prochain.
Donc, ce sera un dernier test, à ton avis?
Ah, ben oui, c'est l'ultime test. Ouais. Même si à l'entraînement, on sait aujourd'hui mesurer les niveaux de sa condition physique et son niveau de performance. Une chose est certaine, s'il prend le départ du Tour, il faut pas le mettre au niveau où il était les autres années et ne pas attendre de Julien ce qu'il a produit depuis 3-4 ans. Et à partir de ce moment-là, au fil des jours.
Ouais, mais c'est surtout en début de tour où les opportunités se présentaient pour lui, hein.
Il a été presque un mois sans faire de vélo. Là, il va arriver au départ du tour avec seulement 5 petites semaines d'entraînement quand on sait qu'il faut 3 mois pour être à son top niveau.
Ouais. Incertitude évidemment, on en saura un peu plus donc dimanche prochain avec ces championnats de France qui se déroulent à Cholet et puis donc les sélections qui vont tomber petit à petit pour le Tour de France. On rappelle que le Tour, tu vas pas, t'arrives pas en retard hein, parce que tu sais que le Tour débute un vendredi, Cyril, hein, t'es au courant.
Non, c'est pas possible.
Oui.
Non, mais moi le vendredi c'est pas possible.
Et le vendredi c'est le jour des poissons.
C'est le vendredi saint. Je travaille pas.
Merci beaucoup Cyril, on se retrouve très bientôt évidemment, dès demain dans Grand Plateau, évidemment notre podcast que vous pouvez télécharger sur toutes les bonnes plateformes. On va parler justement de tous les favoris de ce Tour de France et puis évoquer les Français. Merci Cyril Guimard, bon retour en Bretagne.
Alors, à demain et après au Danemark.
Vendredi, n'oublie pas, on va aller voir les petites sirènes. Merci, merci Cyril. C'est la mi-temps en finale de Ligue des Champions de Hand, Morgan Maury.
Le Barça est devant d'une unité 14-13 pour le Barça et sa colonie de 4 joueurs français. Un but d'Alex, le joueur espagnol, sur son aile droite, juste avant la fin du chronomètre. Le Barça qui mène après les 30 premières minutes 14-13 face à Kielce, le Barça qui est à 30 minutes de sa 11e Ligue des Champions.
Merci, merci Morgane. Julien Richard à Budapest. Oui. Oh là, Julien, c'est il est dans l'euphorie avec cette médaille d'argent de Marie Wattel tout à l'heure.
C'est de la folie. Effectivement, vice-championne du monde Marie Wattel, l'émotion, on l'a entendu. Et juste derrière, eh bien, c'est un autre nageur qui a grandi à Annecy. Et d'ailleurs, la maman de Johan Ndoye Brouard qui s'est qualifiée pour la finale du 100 mètres d'eau, figure-toi, a entraîné Marie Wattel. Et Johan Ndoye Brouard a donc réalisé le cinquième temps de l'ensemble des demi-finales. Il a amélioré son record personnel. 52 secondes 72 centièmes pour le nageur français. Malheureusement, ça ne passe pas pour Mewen Tomac, le deuxième français engagé, qui n'a pas réussi lui à se hisser à son meilleur niveau, ce qui lui aurait permis de se glisser lui aussi dans cette finale. L'info, c'est que ça a nagé très vite dans la deuxième demi-finale. Ça a même un peu surpris Johan Ndoye Brouard, mais que l'on a senti vraiment gonflé à Bollock pour cette finale demain, sa première finale mondiale. Vous avez tous en tête l'image, hein, Christophe, de Johan Ndoye Brouard au jeu de Tokyo,
oui,
la demi-finale, où il rate son virage parce qu'il avait une maladie, hein, il l'a dit après aux yeux. Il avait heurté le mur et il s'était fait disqualifier alors qu'il était franchement en pleine bourre, comme on dit. Il est tout jeune, 21 ans, donc c'est plein de promesses. Johan Ndoye Brouard en finale demain du 100 mètres d'eau.
Eh ben merci, ben voilà une bonne nouvelle encore. Il y en a plein qui nous viennent de la natation et de la piscine de Budapest. Une autre bonne nouvelle qui nous vient d'Angleterre, où les Barbarians britanniques, ils n'avaient pas grand chose de britannique d'ailleurs cet après-midi, puisqu'il n'y avait pas moins de 10 joueurs français dans cette équipe. Eh bien, entraînés par un certain Fabien Galthié, eh bien nos babas britanniques français ont écrasé, humilié le 15 de la Rose, battu 52-21 sous les yeux d'un Galthié aux anges. 8 essais passés donc au 15 de la Rose, qui sera en Australie pour sa tournée estivale et qui va pas partir avec une grosse confiance. Voilà donc une bonne nouvelle pour le rugby français. 18h40, une bonne nouvelle également pour la moto française. Ils n'en finissent plus de gagner, de faire des doublés. Quartararo devant Zarco au Grand Prix d'Allemagne. On en parle dans un instant avec Paul Lafitte et Jean-Luc Roy. Et puis il y a également un Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix du Canada qui débutera un petit peu plus tard. Et on va en parler là aussi avec Jean-Luc. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
Dans un quart d'heure spécial législatif sur RMC, à ne pas rater évidemment. On connaîtra les résultats à partir de 20h. Les résultats, ils sont plutôt pas mal pour les Français cet après-midi, avec donc la médaille d'argent de Marie Wattel au championnat du monde de natation, et un résultat également en escrime, Morgan Mori, au championnat d'Europe qui se déroule en Turquie, avec un Français en finale tout à l'heure.
Et c'est Yannick Borel, déjà triple champion d'Europe individuel à l'épée masculine, il a aussi été champion olympique par équipe, champion du monde individuel. Et Yannick Borel, c'est le dernier Français rescapé. Il vient de remporter sa demi-finale face au Suisse Max Heiser. Il a été dominé en début de match, puis il est remonté. Victoire 15-10 pour Yannick Borel, qui affrontera dans une demi-heure environ la surprise de ce tableau d'épée masculine, le Néerlandais Tulen, 57e mondial. C'est le dernier rescapé français, Borel. Pourquoi ? Parce que Romain Cannon, champion olympique surprise à Tokyo l'été dernier, a lui pris la porte dès le premier tour. Christophe, il y a peut-être une autre bonne surprise qui est en train de se profiler au sabre féminin. Sarah Balzer, la strasbourgeoise, dans sa demi-finale contre l'italienne Gregorio, elle mène 8-4. C'est la première arrivée à 15 touches qui se qualifiera pour la finale.
Allez, ça va sentir l'essence, le pneu un peu brûlé, l'huile également. Voilà les gros cubes qui arrivent sur RMC, nos spécialistes des sports méca. J'ai nommé Paul Lafitte, ses grandes épaules. Salut mon Polo.
Salut Christophe, Flore, bonsoir à toutes et à tous.
Et Jean-Luc Roy, lui aussi qui chevaucheur de gros cubes. Ça va mon Jean-Luc?
Attention à ce que tu dis. Salut mon Chris, salut Paul, bonjour à tous.
Alors, salut de la moto, de la Formule 1 aujourd'hui. La moto s'est déjà passée et ça s'est plutôt bien passé, Paul, avec un nouveau doublé pour nos Français qui n'en finissent plus d'écraser la concurrence espagnole, italienne et le reste. Victoire de Fabio Quartararo devant Johan Zarco. C'est le deuxième doublé consécutif. Ils sont vraiment au taquet, nos Français, en ce moment. Hein.
Alors Christophe, c'est pas le deuxième doublé consécutif, il y a 15 jours Quartararo s'était imposé et Johan Zarco avait terminé troisième.
Ah oui, troisième.
Mais il s'agit du troisième doublé français en MotoGP. Il y en avait eu deux, il y en avait eu un la saison dernière, un cette année en Algarve, et donc ce troisième doublé en cette fin d'après-midi au Sachsenring en Allemagne. C'est qui le patron? Eh bien le patron, c'est Quarta. Hein. C'est aussi simple que cela. On le disait avec Jean-Luc, on a cessé de le répéter sur RMC aujourd'hui. En début de saison, c'était très difficile pour le champion du monde en titre sortant, car sa Yamaha n'était pas au niveau de la Ducati. Les ingénieurs ont beaucoup bossé chez Yamaha, et aujourd'hui avec une moto quasiment égale à celle de Pecco Bagnaia, on parle de la Ducati officielle, eh bien il fait la différence, il fait les différences, Christophe. Une victoire avec près de 4 secondes d'avance sur Juan Zarco, alors que Bagnaia est encore parti à la faute. Quand on dit que c'est le boss aujourd'hui, il remplace dans les cœurs et sur la piste un certain Marc Marquez, des 6 fois champion du monde de MotoGP.
Ouais, Jean-Luc, c'est vrai qu'à moto égale, Quartararo est au-dessus du lot. En ce moment, c'est le meilleur pilote moto de la planète, il n'y a pas à hésiter. Ah,
tout à fait, Chris. Il est extrêmement impressionnant. Écoute, comme en Catalogne, donc sur le circuit de Barcelone, dès le premier virage, il s'est imposé. Il partait sur la première ligne, au milieu de la première ligne avec le deuxième temps. Il s'est imposé devant son rival direct, celui qui avait signé la pole, évidemment, Pecco Bagnaia, qui lui, a craqué sous la pression parce que on a fait un petit chassé-croisé dans les 3 premiers tours. À un moment, Bagnaia, justement, lui a fait le freinage au bout de la ligne droite en profitant quand même de la rapidité, la vélocité, la puissance de la Ducati qui est une légende. C'est le seul chapitre, je dirais, où la Yamaha pêche encore un peu. Elle est un peu moins puissante, un peu moins rapide, mais dans tous les autres compartiments du jeu. Et surtout, tu sais, on dit toujours le plus important, c'est entre le guidon et la selle, c'est le pilote. Et là, je crois que Quarta, il a montré qu'il était le patron. Il a repris la tête. Il était en train de s'échapper quand Bagnaia a commis la faute.
Ouais. Et il est désormais largement en tête du championnat du monde. Et un deuxième titre lui tend les bras, Paul. Je crois 34 points d'avance, c'est-à-dire plus qu'un grand prix d'avance sur tous ses rivaux. Hein.
Ouais, tout à fait. Une victoire, c'est 25 points, Christophe. Et aujourd'hui, le pilote Yamaha compte donc 34 unités d'avance sur Aleix Espargaró, le pilote officiel Aprilia, qui a lui terminé quatrième de ce Grand Prix. Et on retrouve en troisième position Juan Zarco, qui monte sur le podium, mais qui est relégué à 61 points. Autant dire plus de 2 victoires d'avance sur Juan Zarco. Et évidemment, Jean-Luc va en reparler, mais le principal rival, en tout cas en début de saison, c'était bien sûr Pecco Bagnaia pour l'attribution d'un titre de champion du monde. Et aujourd'hui, l'Italien est sixième avec seulement 81 points au compteur, autant dire plus de 3 victoires et demie d'avance pour Quartararo, qui ne tombe quasiment jamais. Autant dire que c'est un boulevard qui s'offre désormais au numéro 20, Al Diablo, le niçois, Christophe, comme tu aimes le rappeler.
Bien sûr. Il faut le rappeler, il faut le rappeler régulièrement. Tiens, on va l'écouter, notre niçois préféré, Fabio Quartararo.
Wow, c'était une course vraiment, surtout les premiers tours, je voulais rester premier. Ça a fait la différence et c'est ce que je voulais faire. Je veux passer premier le plus tôt possible et c'est ce que j'ai fait. Dès que Bagnaia m'a passé, je voulais repasser parce que je sais que c'est impossible pour nous de dépasser ici. Non, c'était vraiment une course incroyable, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Je suis là pour gagner, course par course. L'année dernière, c'est comme ça que j'ai gagné le championnat. Je pense pas gérer. Je dois rajouter quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, je voulais te souhaiter bonne fête, papa. Ciao, ciao.
Voilà, il est parfait, ce petit Fabio, interrogé par nos confrères de Canal+ tout à l'heure. Quartararo, donc champion des champions. On aimerait bien, je ne sais pas si ça va être possible, mais que Juan Zarco, Jean-Luc, en gagne un de ces jours de Grand Prix. Ce serait magnifique. Parce que là, il est deuxième, mais on ne parle évidemment que de Fabio. Ça doit être terrible pour ce garçon qui est vraiment d'une régularité incroyable et qui est un sacré champion lui aussi.
Ah, c'est un formidable champion. C'est quand même le 15e podium en catégorie reine. Il a signé 7 meilleurs tours en course jusque-là, 7 pole positions, Juan Zarco. Et puis effectivement, il lui manque cette victoire en catégorie reine, alors qu'il disputait son 94e Grand Prix. Alors, il faut rappeler quand même qu'il est double champion du monde, ce qui est absolument unique, surtout consécutivement en Moto2. En 2015 et 2016, il avait remporté 15 Grands Prix en Moto2, un en 125 cm3. Oui, il lui manque effectivement cette perle, je dirais, ça va venir. Hein. Il était pas loin, il essayait de s'accrocher. Il est resté un moment à 1 seconde 2, 1 seconde 4, 1 seconde 5.
Il faudrait que Fabio tombe en panne d'essence pour qu'il gagne, on a dit quand même. Hein.
Ah, écoute, on sait jamais. Je sais que Paul, il comptait. Il y avait une chance. Hein. Honnêtement, il termine pas loin. Il termine à 4 secondes 9 exactement. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a eu un tournant. On a cru jusqu'à la mi-course à peu près que Johan pouvait revenir sur Fabio. Et puis effectivement, un duel entre les deux Français, ça aurait été fantastique. On adorerait voir ça, effectivement, avec les qualités de chacun. Mais bon, Johan, qui est sur le point de resigner avec son équipe Ducati Pramac, il est très bien dans cette équipe. Il n'a que 31 ans, c'est toujours pareil, il a encore un bel avenir devant lui. Il va finir par le décrocher, cette victoire. Et puis, juste un mot sur le bonne fête papa de Fabio. Il faut rappeler que son papa, qui est un type très sympa, l'a aidé dès le début à accepter, l'a mis en Espagne à 14 ans seulement pour qu'il apprenne à piloter. et son papa était champion de France de moto en 125 cm3. Donc tu vois, c'était une belle belle récompense.
Et ben c'est très sympa de penser à son papa en tout cas. Merci Polo, on va te remercier, on va te laisser. Okay. Ça va, ça se passe bien, Biarritz, il fait beau, il fait chaud.
C'était à Cabreton dans les Landes.
Tout va bien.
On varie les plaisirs.
Il est au bord de la plage, Chevenard, tout va bien. Merci.
Mais on va se régaler en écoutant, Jean-Luc ce soir à partir de 20h pour la Formule 1, évidemment.
Alors non, justement.
Sur l'appli RMC.
Sur l'appli RMC. Mais oui, parce que
les fans d'RMC en ont pour tout. Il y en a pour tous les goûts. La radio, le talk, l'internet. Eh bien, sur l'appli RMC, en tout cas, Jean-Luc, on sera au rendez-vous ce soir à 20h.
Merci Polo, j'en suis sûr.
T'as sorti les rames, c'est bien.
Et puis il y a Assen dès le week-end prochain.
C'est ça, le 26 juin. Bon, mais messieurs, bonne soirée.
Allez, mister bien, va voir l'apéro, tiens, c'est l'heure. À plus tard, voilà. Oui, Jean-Luc, non, tu commenteras pas le Grand Prix sur l'antenne RMC, puisqu'il y a la politique, évidemment, le résultat des législatives, mais on va quand même évoquer ce Grand Prix du Canada, avec un homme qui devrait s'imposer. Il y a pas beaucoup de doutes là-dessus. Verstappen qui part en pôle, tous ses rivaux sont beaucoup plus loin, notamment Charles Leclerc, qui, on le rappelle, a été pénalisé et qui s'élance du fond de grille. C'est dommage, on en parlait hier, ce règlement un peu stupide, mais c'est comme ça. Verstappen a-t-il un rival ce soir?
Alors il faut faire avec, effectivement. A-t-il un rival? Oui, déjà la course jusqu'au premier virage. Il s'appelle Fernando Alonso, il est double champion du monde, et pour faire monter la pression, il a dit: je vais tout faire pour faire le premier tour en tête. Alors après, on verra. Effectivement, Verstappen est ultra champion, il est sur une dynamique absolument fantastique, on l'a dit et redit, avec 4 victoires dans les 5 derniers Grands Prix, sur le sec, et ce sera sec, hein, ça y est, on a confirmation, ce sera sec et ensoleillé pour le Grand Prix, contrairement aux qualifs qui sont déroulés sous la pluie. Et Verstappen, comme par hasard, était le plus rapide sur le sec, donc effectivement, a priori, ça lui est promis. Mais tu sais, ce sont des sports mécaniques. Et puis là-bas, il y a le fameux mur des champions, qui a été embrassé par 3 champions du monde en 99. Il y a eu du monde, Hill, Villeneuve et Schumacher, dans le mur. Donc voilà, on passe très très près des murs à plusieurs endroits, hein, sur ce tracé.
Ouais, bon, et puis il y a des marmottes en plus qui traversent la piste.
Il y a des marmottes qui traversent, absolument.
Bonne mémoire. Bon, et ben on va suivre ce Grand Prix. Donc ce sera sur le site RMC Sport, évidemment, pour l'évolution de ce Grand Prix qui débutera tout à l'heure à 20h, et on te retrouvera évidemment pour analyser tout ça. Merci Jean-Luc. Bonne soirée, bon Grand Prix du Canada. Oui. 18h53, un petit coup d'œil sur la finale de la Ligue des Champions de hand. C'est très serré, Morgan, entre Barcelone et Kielce.
Oui, Barcelone menait d'un but à la pause, toujours un but d'avance après une minute passée dans cette deuxième période. 15 pour le Barça, 14 pour Kielce.
Merci beaucoup Morgan. Voilà pour le sport. Évidemment, vous retrouverez tout à l'heure l'after, mais dans un instant, vous avez rendez-vous avec la politique en simultané sur RMC et sur BFM Télé. Émission spéciale donc consacrée au deuxième tour des législatives. À très bientôt sur RMC. Bonne politique et bonne législative. Bonne soirée. Ciao.